De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détails Nissan.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
L'enseignant et essayiste, directeur de la Fondation Respublica, Joachim Le Floch Imad, est mon invité juste après votre journal. Bonsoir Maëlle Hassani.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Il est 20h sur Europe 1.
Europe 1 soir.
19h-21h. Pierre de Villeneuve.
Au sommaire, le meurtrier de Mélanie, mis en examen ce soir.
Cet adolescent de 14 ans qui a tué sa surveillante mardi dernier devant son collège de Nogent en Haute-Marne est placé en détention provisoire. Dans l'établissement où s'est déroulé le drame, les cours ont repris aujourd'hui. Vous entendrez un camarade du mis en cause dès le début de ce journal. Le conclave sur les retraites doit s'achever mardi prochain, avant dernière réunion aujourd'hui. Syndicats et patronats n'arrivent toujours pas à trouver un terrain d'entente sur l'âge légal de départ et le Premier ministre François Bayrou risque sa place dans ce dossier. Dans ce journal également, les dernières informations sur le crash d'un Boeing 787 sur une zone résidentielle à Ahmedabad en Inde. Au moins 290 morts, mais un survivant. Et puis le retour de la consigne en verre. Coup d'envoi d'une expérimentation dans 4 régions. Illustration dans les Pays de la Loire.
La tendance météo, Marlène Duret.
Du grand soleil dans beaucoup de régions, des températures maximales généralement comprises entre 27 et 36 degrés et surtout une dégradation orageuse prévue en seconde partie d'après-midi et en soirée dans le nord-ouest et au sud de la Garonne.
À tout à l'heure. Le meurtrier de Mélanie, cette surveillante tuée devant un collège de Haute-Marne mardi dernier, est donc mise en examen ce soir.
Cet adolescent de 14 ans est également placé en détention provisoire. Une minute de silence observée dans tous les établissements scolaires de France à midi pile pour rendre hommage à la victime. C'était le cas bien sûr au collège Françoise Dolto de Nogent où s'est déroulé le drame. Quelques dizaines d'élèves ont repris le chemin des cours ce matin comme Thomas, un camarade de classe de Quentin, le meurtrier.
C'était plutôt une ambiance un peu triste. Pas trop bien, il y a des gens qui pleuraient, du coup voilà quoi. À midi on a fait une minute de silence pour rappel à sa mémoire et que c'était une personne très gentille, très adorable.
Et tu es en quelle classe?
Je suis en classe de 3ème dans la classe de Quentin.
Donc tu le connaissais?
Oui, je le connaissais, c'était un de mes meilleurs potes. Quand j'ai vu que Quentin s'est fait arrêter, j'y croyais pas, je pensais pas qu'il aurait fait ça. C'était un bon élève. Il n'y avait pas de problème, on discutait, on travaillait tous les deux. Je sentais très bien qu'il me disait des trucs, par exemple, il jouait à des jeux violents. Moi, des fois, moi, je joue à Fortnite, mais dès que moi, ça commence à m'énerver, je coupe direct. Alors que lui, ça l'a énervé, ça il casse tout, quoi, en fait.
Thomas, l'un des meilleurs amis du meurtrier de Mélanie, interrogé pour Europe 1 par Mélina Fachin. Emmanuel Macron s'est exprimé à nouveau sur ce drame à la mi-journée lors du Conseil des ministres. Le président de la République évoque une désinhibition de la violence et appelle à s'attaquer à toutes les causes de ce phénomène, je cite, dans toute sa diversité. C'est l'une des seules réformes adoptées depuis la dissolution. Le Conseil constitutionnel censure aujourd'hui une petite partie de la loi narcotrafique. 6 articles invalidés totalement ou partiellement, dont celui sur la création d'un dossier coffre ou encore l'expérimentation du renseignement algorithmique. Feu vert en revanche à l'ouverture de prisons de haute sécurité pour incarcérer les narcotrafiquants les plus dangereux. Le premier établissement de ce type verra le jour cet été.
L'avant-dernière réunion entre partenaires sociaux sur l'amélioration de la réforme des retraites avait lieu aujourd'hui.
Oui, ce conclave voulu par François Bayrou doit rendre ses conclusions mardi prochain après plus de 3 mois de négociations. Syndicats et patronats sont diamétralement opposés sur la question du maintien des 64 ans. Mais le Premier ministre assure ce soir qu'il existe un chemin vers un accord. Alexis de La Fontaine, même en cas de miracle, le chef du gouvernement risquerait de chuter sur ce dossier.
Oui, la France insoumise menace déjà de voter une motion de censure si le Premier ministre maintient les 64 ans. François Bayrou refuse de céder sur ce point. Il n'a pas vraiment le choix car l'équilibre n'est toujours pas atteint. Le Conseil d'orientation des retraites préconise même de repousser jusqu'à 66 ans et demi l'âge de départ à la retraite. Alors, pour tenter de calmer le rassemblement national, national et les socialistes, François Bayrou devrait présenter un nouveau texte au Parlement prochainement. L'idée serait d'ajuster d'autres critères, comme la pénibilité ou les carrières des femmes avec enfants, explique son entourage. C'est de l'enfumage, répond un député socialiste. Pour nous, les 64 ans, c'est une ligne rouge, on ne peut pas céder là-dessus. Aujourd'hui, il est encore impossible de savoir si François Bayrou pourra empêcher l'adoption d'une motion de censure. Même son propre camp n'est pas très optimiste sur la question. Édouard Philippe et Gérald Darmanin préfèrent avancer l'idée d'une retraite par capitalisation plutôt que de revenir aux 62 ans.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Rima Hassan est dans l'avion, direction Paris. L'eurodéputée insoumise expulsée du territoire israélien après l'arraisonnement du bateau sur lequel elle se trouvait en début de semaine avec l'ambition d'accoster à Gaza. Rima Hassan et les 11 autres militants pro-palestiniens impliqués dans cette mission présentée comme humanitaire sont désormais interdits de séjour dans l'État hébreu pendant 100 ans. La France dénonce un signe de la poursuite assumée de l'escalade nucléaire en Iran après l'annonce par Téhéran de la construction d'un nouveau site d'enrichissement et d'une augmentation significative de sa production d'uranium enrichi, un pas supplémentaire vers l'obtention de l'arme atomique. Dans ce contexte, Donald Trump exhorte Israël à ne pas frapper l'Iran dans les heures qui viennent, car selon lui, un accord est proche entre les États-Unis et Téhéran.
20h06 sur Europe 1, l'horreur absolue en Inde.
À Ahmedabad, un avion de la compagnie Air India, un Boeing 787 Dreamliner, s'est écrasé ce matin sur une zone résidentielle de cette ville de l'état du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde. Les images diffusées sur les réseaux sociaux sont absolument glaçantes. Le dernier bilan rapporté par l'agence Reuters fait état d'au moins 290 morts. Mais Yuen Madek, c'est un miracle, un passager a survécu.
Oui, il s'agit d'un homme britannique de 40 ans, Vishwash Kumar Ramesh, qui n'est que légèrement blessé. Le miraculé raconte être tombé à terre au moment du crash, puis s'être relevé au milieu des cadavres et des débris avant de s'enfuir en courant. Assis sur le siège 11A, il était à proximité de la porte de sortie de l'avion. Pour l'instant, il est le seul survivant avéré parmi les 242 personnes qui étaient à bord. Interrogé par un journal local, il a déclaré, je cite, « 30 secondes après le décollage, il y a eu un gros bruit, puis l'avion s'est écrasé ». Tout s'est passé très vite. Sur les vidéos de la tragédie, on voit l'avion perdre rapidement de l'altitude juste après son décollage avant de tomber sur des immeubles et d'exploser en une boule de feu orange. La cause de ce crash est pour l'instant inconnue et l'enquête ne fait que commencer, explique Jean-Paul Troadec, ancien président du bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile.
L'enquête va être menée par les autorités indiennes qui vont s'appuyer sur des experts de Boeing. On va avoir accès, bien sûr, à tout l'enregistrement des boîte noire de l'avion, mais également tous les autres enregistrements, puisque l'avion était en contact avec l'aéroport. Donc il y a eu des échanges entre les pilotes et puis les contrôleurs aériens.
Ce crash est le premier sur Boeing 787, un modèle d'avion moderne lancé en 2011.
Yuen Madek, et c'est une nouvelle catastrophe aérienne impliquant un appareil construit par Boeing. Le titre de l'avionneur américain perdait plus de 5% à l'ouverture de la bourse de New York tout à l'heure. Le chef de la diplomatie ukrainienne le dit clairement, son pays souhaite mettre fin à la guerre contre la Russie cette année. Mais pour cela, les Occidentaux doivent renforcer leur pression économique et militaire sur Moscou, car selon lui, la diplomatie d'apaisement ne marche pas avec le Kremlin. Volodymyr Zelensky dit espérer rencontrer Donald Trump lors du sommet du G7 ce week-end pour convaincre le président américain de renforcer la pression sur Vladimir Poutine.
La consigne en verre fait son grand retour dans 4 régions françaises.
Oui, une expérimentation d'une durée de 18 mois vient de débuter en Bretagne, dans les Hauts-de-France, en Normandie et dans les Pays de la Loire. Le principe est simple, il rappelle sûrement des souvenirs à beaucoup d'auditeurs. Vous mettez vos bouteilles en verre vides dans une machine installée devant le magasin et vous obtenez 10 à 20 centimes par unité. Coup d'envoi de l'opération donné ce matin dans un supermarché près de Nantes. Le reportage européen de Sandrine Prioul.
C'est quand même bien. Petit satisfait-site pour une bouteille de jus de pomme en verre dans une grande machine qui restitue 20 centimes à Marie-Christine. La retraitée a l'impression de renouer avec des mesures de bon sens.
On peut ramener ce qu'on a, mettre dedans, à la limite, comme on faisait dans le temps. Hein. Quand j'étais petite, on allait chercher du vin, des trucs. On allait avec la bouteille. Donc on ne jetait pas, on n'avait pas de plastique. Maintenant, vous avez du plastique partout.
Le plastique ira au mieux au recyclage pour une seconde vie. Ce verre de Marie-Christine sera lavé, lessivé dans une usine du coin qui a largement embauché pour l'occasion. Et si ce n'est que le retour d'une pratique ancienne, Valentin Fournel, directeur du réemploi chez Citeo, raconte qu'il aura fallu reconstituer intégralement une filière.
Il faut tout réinventer, toute la logistique derrière, parce qu'il faut bien que les emballages soient ensuite récupérés, envoyés vers des centres de lavage qui puissent laver tous ces emballages-là pour ensuite toutes les renvoyer chez de nouveaux metteurs en marché qui pourront reconditionner à de nouveaux produits.
750 magasins partenaires dans 4 régions d'ici l'automne. Et si les consommateurs se remettent à cette consigne, la France entière pourrait bien rapporter son verre contre 10 ou 20 centimes d'ici à 2 ans. Saint-Sébastien sur Loire, Sandrine Priot, l'Europe 1.
Merci Maëlle Hassani pour votre journal. Marlène Duret, vous nous annoncez un nouvel épisode orageux pour demain.
Oui, alors quelques ondées orageuses pourront se déclencher dès le matin entre la Bretagne, la Vendée et le nord du Poitou. Mais bon, ça c'est pas grand chose. C'est plutôt dans l'après-midi, après 16h et en soirée, que de violents orages pourront éclater. Alors ça va concerner la Bretagne, les Pays de la Loire, la Basse-Normandie. Et puis ça va se décaler dans la nuit vers la Haute-Normandie, la région parisienne et les Hauts-de-France. Parallèlement, d'autres orages toucheront l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées. Ça, ce sera en soirée. Et donc, ce qu'il faut s'attendre, en tout cas, pour les orages les plus forts, des chutes de grêle, ça c'est sûr. Il y aura de violentes rafales de vent. On pourrait dépasser les 100 km à l'heure, en rafale. Mais aussi des phénomènes tourbillonnaires, c'est important. De fortes intensités pluvieuses, 50 à 80 mm en quelques heures pour les secteurs les plus touchés. Voilà, ça c'est important.
Température de l'après-midi en hausse partout.
Oui, absolument. Pic de chaleur, pic de l'épisode, c'est demain, avec des températures qui ont baissé, c'est vrai, aujourd'hui à l'ouest, mais qui vont à nouveau remonter. Et d'ailleurs, elles vont remonter partout d'un cran. 36 degrés, par exemple, prévu à Grenoble, peut-être aussi du côté de Montluçon. Il fera 35 à Metz, à Bourges, à Besançon et Limoges, 34 à Nevers et à Lyon, 33 à Reims, à Montélimar, à Agen, 32 à Tours et Marseille, 31 à Lille et Paris, 30 à La Rochelle, 29 à Rouen, 24 à Caen et un petit 22 degrés à Brest.
Merci Marlène Duret. Dans un instant, l'enseignant et essayiste Joachim Le Floch Imad est avec nous. Et pour lui, l'école n'est plus un sanctuaire. Très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? À tout de suite sur Europe 1.
C'est BYD, le leader mondial et expert du véhicule électrique et hybride. BYD Dolphin Surf, la nouvelle citadine 100% électrique à partir de 19 990 euros. Du 11 au 30 juin, viens l'essayer et tente de la gagner. Voir conditions et règlements complets sur le site byd.com/fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Pensez à covoiturer.
Ce vendredi, jackpot record Euromillions de 250 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail Nissan.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Accédez directement à tous les podcasts originaux Europe 1 Studio sur l'application Europe 1.
Audi, sans compromis. En ce moment, le meilleur du design et de la technologie Audi hybride rechargeable est plus accessible que jamais. Jusqu'au 30 juin, découvrez la nouvelle A5 Avent ou encore la nouvelle A3 Sportback à partir de 390 euros par mois sans apport. Et profitez de son autonomie totale de plus de 900 km. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre en LLD réservée aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Europe 1, le journal permanent.
À 20h13 sur Europe 1, le bilan provisoire du crash d'Air India est d'au moins 290 morts. Le Boeing 787 Dreamliner s'est écrasé sur une zone résidentielle peu après son décollage ce matin. Il y a un survivant, un miraculé parmi les 242 passagers. Deux jours après le meurtre de la surveillante au collège de Nogent en Haute-Marne, l'élève de 3e auteur des faits est mis en examen pour meurtre. Placé en détention provisoire, âgé de 14 ans, il n'a exprimé aucun regret lors de sa garde à vue. La dissolution de la Jeune Garde, mouvement antifasciste, et de Lyon Populaire, groupe d'ultra-droite, annonce faite par Bruno Retailleau en Conseil des ministres. En Israël, 6 passagers du bateau pour Gaza, dont l'eurodéputée Rima Hassan, sont en train de quitter le pays. LFI appelle à une nouvelle mobilisation ce soir, 21h, place de la République à Paris. Une frappe israélienne contre l'Iran pourrait très bien se produire, assure Donald Trump. Le président américain assure que l'Iran pourrait éviter le conflit en cédant plus de terrain dans les négociations avec Washington sur son programme nucléaire. Restez bien avec nous sur Europe 1 dans un instant. L'essayiste et enseignant Joachim Le Floch Imad pour parler du drame de Nogent. À tout de suite.
L'info en continu, c'est sur Europe 1.
Rouler en électrique ou hybride? Ok. Avec la qualité allemande? Évidemment. Et sans dépasser son budget? Toujours. Avec Opel, vous cochez toutes les cases. Pendant les portes ouvertes, Opel vous offre jusqu'à 8000 euros d'avantages clients sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement. Alors n'attendez plus, rendez-vous chez votre concessionnaire Opel. 8000 euros se composant d'une remise sur le prix d'une Opel Astra hybride rechargeable neuve et d'une prime reprise. Offre à particulier sur véhicules en stock jusqu'au 24 juin dans le réseau participant. Détails sur opel.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Mon dictionnaire me dit concombre, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Oui.
En fait, c'est concombre français, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Et pour son prix, car du 13 au 15 juin, les concombres français sont à 1,35€ les deux. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 68 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
16 millions, c'est l'équivalent de la population de Paris, Bordeaux et Lyon réunis. C'est aussi le nombre de personnes dans le monde qui ont choisi Renault Clio depuis 1990. Et ce nombre continue d'augmenter, puisque Clio est la voiture la plus vendue en France en 2024. Renault Clio Génération est en édition limitée dès 16 900 euros. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Source Renault, immatriculation mondiale de 1990 à 2024. Source 3 à data janvier 2025. Clio Génération SCE 65 hors option. Offre à particulier du 1er au 30 juin selon stock disponible. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Europe 1 soir.
19h, 21h, Pierre de Villeneuve.
Avec mes camarades de la deuxième heure, bonsoir Jean-Michel Salvateur.
Bonsoir Pierre.
Bonsoir Raphaël Steinville.
Bonsoir
Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche. Notre invité, il est enseignant, essayiste, directeur de la fondation Res Publica. Bonsoir Joachim Le Floch-Imad.
Bonsoir Pierre de Villeneuve.
Merci d'être avec nous. Vous dites dans un article dans le Figaro, l'école n'est plus un sanctuaire. Moi je veux bien, mais alors qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Qu'est-ce qu'on fait? Vaste question, puisqu'il faut savoir quel est le principal problème, si vous voulez, celui qui a le plus de prise sur les autres. Je pense qu'il faut évidemment agir du point de vue des politiques éducatives, puisque la situation à laquelle... La situation d'hyperviolence des mineurs, la situation d'entrisme islamiste à l'école, si vous voulez, tout ça, c'est la conséquence de 40 ans de politique éducative ultra permissive, de déconstruction de l'autorité, de...
Vous êtes enseignant.
D'incapacité des uns et des autres à maîtriser leurs pulsions. Et je pense qu'on a payé le prix chaque jour avec, en effet, des digues qui nous séparent, qui nous protègent de la barbarie, qui cèdent les unes après les autres.
On l'a vu, il y a beaucoup de sujets, vous avez raison de le dire. La partition est large.
Oui.
Vous êtes enseignant. Dans quelle spécialité, dans quel collège exactement?
Alors, moi, j'interviens essentiellement dans l'enseignement supérieur. Oui. J'ai enseigné plusieurs années en école de commerce, ainsi qu'en BTS. J'ai pas été moi-même confronté à des situations d'hyperviolence avec mes élèves.
Vous voulez dire pas encore?
On est, Dieu merci, très
non,
loin,
mais
très
je parle à froid, parce que ce qui se passe là, c'est une situation d'effroi et elle peut se reproduire. Tout à l'heure, avec les camarades de la première heure, on parlait effectivement de ce drame qui s'est passé à Nogent, mais souvenons-nous, et le lien, c'est peut-être ce fameux jeu vidéo que moi, personnellement, en tant que hockey boomer, ne connais pas, mais c'est le fameux Fortnite. Owen, le meurtrier de la petite Louise en février dernier, qui a perdu une partie en ligne, qui était donc furibard d'avoir perdu cette partie en ligne, est sorti de chez lui, il avait 23 ans, et il assassine une collégienne qui passe par là, qui est innocente, elle rentre chez elle, et puis elle rentre dans un bois, il l'interpelle, il dit viens, suis-moi, j'ai perdu, je sais plus si c'était là, il cherchait quelque chose, et puis en fait elle le suit, elle veut l'aider, et voilà, il la tue. On va parler des jeux vidéo, mais je ne veux surtout pas jeter l'opprobre là-dessus et sur une industrie qui fonctionne et qui, au demeurant, se passe quand même globalement très bien.
Le Japon est le pays au monde où la pratique des jeux vidéo est la plus importante, et c'est aussi le pays où le taux d'homicide est le plus faible. Je pense, si vous voulez, que cette question des jeux vidéo, elle est assez révélatrice d'une tendance de fond dans notre société qui consiste à agir sur les conséquences sans jamais s'interroger sur les causes de fond. Les causes de fond, ce ne sont pas l'absence de portique, ce ne sont pas les jeux vidéo, ce ne sont pas les réseaux sociaux, même s'ils posent évidemment des problèmes, j'en suis conscient. Les causes de fond, c'est à la faillite de l'État, c'est à la démission des parents, c'est le nihilisme qui gagne une partie significative de la jeunesse. Tout ça, si vous voulez...
C'est le fait que les profs sont atrocement mal payés.
aussi.
Oui, c'est l'abaissement de l'autorité professorale.
Et du coup, ils n'ont plus envie. Ils n'ont plus envie d'enseigner.
Et puis, c'est l'aveuglement de la technostructure, c'est la vacuité des politiques publiques éducatives conduites depuis 40 ans. Mais si vous voulez, tout ça, ça dessine une crise qui est civilisationnelle et qui implique, je pense, des réponses beaucoup plus vastes qu'une simple surenchère sécuritaire de court terme en réaction des événements si dramatiques.
Jean-Michel Salvatore ou Raphaël Saint-Ville, je ne sais pas, c'est Raphaël qui a commencé à prendre la parole, pardon.
Oui, moi, permettez-moi peut-être une réflexion peut-être incongrue, mais pourquoi l'école devrait être un sanctuaire? Pourquoi l'école devrait être à l'abri de la violence et pas le tabac, la sortie d'un stade où a été frappé le petit Elias? Finalement, on s'aperçoit à travers cette fausse interrogation que c'est toute la société en fait qui est atteinte par cette violence. Et vous posiez la question de l'origine, des causes qu'il faut pouvoir régler. Est-ce que c'est pas finalement cette espèce de relativisme absolu dans lequel on vit depuis maintenant plus de 40 ans qui fait que le bien n'est plus tout à fait défini? Oui. Est-ce que c'est pas ça le brouillage qui fait qu'aujourd'hui, à l'école, un gamin n'est même plus terrorisé à l'idée d'être désormais un meurtrier?
Non, mais nous serons d'accord là-dessus. En effet, la violence, elle est dans ses ténèbres dans l'ensemble de la société. Tous les indicateurs en témoignent. Si on prend l'explosion des coups et blessures volontaires, l'explosion des homicides, le nombre d'agressions, 1000 agressions par jour aujourd'hui en France. Donc en effet, c'est l'ensemble de la société qu'il faut resanctuariser.
Comment vous le traduisez, cette violence, cette haine, parfois c'est de la jalousie, parfois c'est de l'envie, parfois c'est de la rancune, parfois c'est de la vengeance.
C'est des règlements de compte à coups de marteau.
Il a raison, le président de la République. C'est dommage qu'il se réveille aujourd'hui, mais bon, voilà.
J'aurais aimé qu'il emploie, si vous voulez, un vocabulaire autre que celui de faits divers, puisque ce à quoi on a affaire, ce n'est évidemment pas des faits divers.
Il parle pas de faits divers, il parle de la violence aujourd'hui.
C'est à des faits de société. Oui, mais il parle de la violence. Peut-être qu'on se saisit de cette question de l'explosion de la violence un peu tard, puisqu'il est au pouvoir depuis 8 ans et les comptables d'un bilan en la matière qui est quand même catastrophique. Pour rebondir sur ce que vous disiez, en effet, le cœur du problème, encore une fois, il est civilisationnel. C'est l'incapacité à réfréner ses pulsions, l'incapacité à distinguer le bien et le mal, l'incapacité à s'empêcher, pour reprendre la fameuse formule d'Albert Camus. Et tout ça, encore une fois, ça implique de, non pas de sécuriser l'enfer, mais de vouloir reconstruire, si vous voulez, de reconstruire la société, reciviliser celle-ci. Ça prendra des années, ça demandera un courage politique dont je pense la classe politique actuellement au pouvoir est dépourvue.
Oui.
Et ça demandera un changement aussi dans la technostructure.
L'avocat Jean-Yves Le Borne, juste avant vous, dans la première heure, disait qu'on manquait de sacré. Alors, pas forcément de sacré religieux, mais même de sacré laïque. Il manquait quand même une sorte de guide comme ça qui permettait, comme à une époque, de se dire, ben voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est blanc, ça c'est noir, ça c'est ceci. Jean-Michel Salvatore avait une question.
Oui, parce qu'une fois qu'on a fait ce constat de faillite qu'on partage tous, comment on reconstruit et avec qui? Quel rôle pour les parents? Quel rôle pour les profs? Quel rôle pour les politiques? Et est-ce qu'il y a des modèles dont on pourrait s'inspirer, soit à l'étranger, soit dans le système éducatif privé en France?
Comment reconstruire? Alors, il y a deux niveaux. Il y a l'action politique qui concerne l'ensemble du corps social et il y a l'action politique qui concerne les problèmes purement éducatifs. Du point de vue de l'école, je pense qu'il faut, si vous voulez, mettre à nouveau l'accent non plus sur les compétences, mais sur le savoir qui permet, si vous voulez, de lutter contre l'abêtissement qui déstructure l'esprit, fait le lit de la violence, du clanisme, de la haine dont l'actualité nous apporte tant d'exemples.
Mais comment? C'est ça la question de Jean-Michel. Et pardonnez-moi, c'est la question que je vous ai posé au début. Est-ce que ça veut dire des cours, des sessions, j'allais dire de... Est-ce qu'il faut faire des cours de bon sens? Est-ce qu'il faut faire des cours de...
Ben oui, non, mais il faut déjà faire des
cours.
Remettre l'accent sur les fondamentaux et non plus sur les sujets périphériques qu'on étudie actuellement. Revoir en profondeur la formation des professeurs, puisqu'il y a aussi une baisse du niveau des professeurs. Il faut, je pense, lutter contre l'hétérogénéité des classes, la massification scolaire depuis le collège unique ayant fait énormément de dégâts. Et il faut aussi un accent mis sur l'autorité à l'école. Sanctionner dès la première violation du règlement, ce qu'on est incapable de faire aujourd'hui. aujourd'hui. Et je pense que ça va au-delà
mais
de l'école.
Mais c'est pas totalement vrai. Regardez très précisément le cas de ce gamin de 14 ans, Quentin. Il a été sanctionné deux fois, à chaque fois.
De manière très légère. Vous étranglez une camarade, vous êtes su quelques jours.
Quand on parle comme ça, de manière très lointaine, et qu'on dit il a voulu étrangler un gamin qui est en 6e, il était en 3e, vous savez ce que c'est qu'une cour d'école. Quand on dit étrangler, c'est peut-être pas forcément avec la même violence que ce que l'on peut imaginer. Quand on emploie ces termes, on transpose à des choses qui sont autrement plus violentes. Il y a plein de choses qui sont... le fait est qu'il avait été sanctionné. La fermeté, elle avait déjà été inscrite finalement dans les valeurs de ce lycée. Donc c'est pas seulement suffisant. C'est pas suffisant. Sa fermeté n'est pas suffisante.
Je pense qu'il y a une faiblesse des sanctions à l'issue des conseils de discipline de manière générale. Et je pense qu'un certain nombre d'élèves qui sont aujourd'hui dans le système ordinaire gagneraient à en être sortis et qu'il faudrait augmenter, si vous voulez, le nombre de centres éducatifs fermés, par exemple, qui permettent de reciviliser les jeunes
mais vraiment,
les plus violents.
Est-ce que ça permet de reciviliser? C'est quoi le bilan des centres éducatifs fermés?
Mais il y avait eu un rapport il y a une dizaine d'années qui montrait que ceci était plutôt efficace, sauf que le problème, encore une fois, c'est le manque de moyens humains et le manque de présence géographique de ces centres. On en a 54 en France qui prennent en moyenne en charge une dizaine de jeunes. C'est tout à fait insuffisant, sachant que beaucoup de ces centres sont engrainés par des associations à l'idéologie douteuse, sont un peu des passoires où les jeunes peuvent fuguer assez facilement.
Oui, donc c'est complètement à l'abandon en fait ce système.
Oui, mais c'est révélateur de la faillite de l'autorité de l'État.
Joachim, vous venez de dire que je vous ai posé la question, est-ce qu'on a un suivi des conséquences de ces centres éducatifs? Vous m'avez dit, on a un rapport. Oui. Mais ça c'est l'administration française, c'est l'inertie française dans son sublime archétype, c'est-à-dire qu'on fait un rapport, voilà.
Si on veut être un peu pragmatique, parce que je pense que ce qui intéresse les parents aussi, c'est d'essayer de savoir comment on peut reconstruire tout ça. Oui. Est-ce qu'il y a, par exemple, dans l'enseignement privé, des méthodes, une façon de faire qui pourrait servir de modèle au reste du système éducatif? Parce que là, bon, vous faites un constat qui est un constat général, mais évidemment, on est tous d'accord pour dire que c'est grave, mais je dirais qu'il faut peut-être un peu nuancer la gravité suivant les établissements.
Je publie à la fin du mois d'août un ouvrage de 350 pages avec des mesures sectorielles très précises, sujet par sujet.
Sur
le privé, alors, je pense que ce qui marche davantage dans le privé et qui fait que les résultats scolaires sont en moyenne meilleurs dans le privé que dans le public, si vous voulez, c'est pas les professeurs qui seraient meilleurs, c'est qu'il y a un cadre disciplinaire beaucoup plus strict et il y a un investissement des parents qui tirent les élèves, qui tirent leurs enfants dans le bon sens. Ça, en effet, ça marche de moins en moins dans le public. Donc il y a sans doute un certain nombre de règlements à copier. Maintenant, si vous voulez, si ça marche mieux dans le privé, c'est aussi que la composition sociale des élèves est plus favorisée, plus privilégiée. On revient toujours au problème de fond que j'évoquais tout à l'heure, à savoir si vous voulez que l'état de l'école, c'est l'état de la société. Quand la société est malade, l'école ne peut pas aller bien. Voilà. Et quand la société n'a pas de pilote, n'a pas de cap, n'a pas de dessin collectif, eh ben il faut pas s'attendre à des miracles à l'école.
Catherine Vautrin, ce matin sur Europe 1, a proposé des référents psy dans les écoles. On va commenter ça avec vous dans un instant, mais d'abord place à l'actualité dans un petit moment. Le temps pour moi de vous dire également que dans le jargon judiciaire, vous le savez peut-être, la code B, c'est le dossier qui réunit les enquêtes de personnalité, les expertises psychiatriques d'un accusé. Et tous les vendredis, Christophe Ondelat fait la côte B, et demain côte B de Dominique Pellicot. En septembre 2024, Dominique Pellicot comparaissait devant la cour d'assises d'Avignon pour avoir violé sa femme en la droguant et en demandant à une cinquantaine de personnes de la violer devant lui. L'invité de Christophe Ondelat, maître Béatrice Zavaro, avocate de Dominique Pellicot et Paul Bensoussan, expert psychiatre. A tout de suite sur Europe 1, le rappel de l'actualité, et on revient avec l'enseignant et essayiste Joachim Le Floch-Imad. A tout de suite sur Europe 1.
Bonjour, c'est Stéphane Bern.
Europe 1.
Au cœur de l'histoire de Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers a été sacrifié par un roi qu'on a dit maudit par l'artisan de sa mort terrible, survenu un vendredi 13, un jour resté depuis, associé au malheur absolu.
Au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire de Jacques de Molay, c'est demain de 15h à 16h sur Europe 1.
La 6e édition du prix littéraire Europe 1 GMF a récompensé Le Lit Clos de Sophie Broca.
un livre parfaitement en phase avec les valeurs humanistes défendues par le prix.
L'écoute, l'attention, la bienveillance, la solidarité. Là, je pense que c'est ce qui met en lumière la plus belle part de notre humanité. C'est des valeurs qu'il faut qu'on cultive. Je suis du coup encore plus honorée que ce soit ces valeurs-là qui soient exaltées dans ce prix.
Le Lit Clos de Sophie Broca, lauréate 2025 du prix littéraire Europe 1 GMF. Disponible dès maintenant en librairie.
On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut décider de faire confiance à plus de 800 000 conducteurs de Dacia Sandero. Dacia Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers depuis 9 ans en France, est à découvrir à partir de 99 euros par mois pendant les portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Offre réservée aux particuliers, valable du 12 au 16 juin pour Sandero Essentiel SE 65,9 euros option. Premier loyer 1 700 euros, LLD 49 mois, 50 000 km, si Accordiac. Conditions sur Dacia.fr, source 3 à date à janvier 2025. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Téléchargez l'application Europe 1.
Tout Europe 1, dans votre mobile.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990 euros hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Les plus belles choses arrivent souvent à la dernière minute, comme le but décisif du match. Ou cette offre qui te change l'été.
Costa vous sauve à la dernière minute. Réservez votre croisière d'été de 8 jours à partir de 699 euros par personne. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 30 juin. Info en agence ou sur costacroisiere.fr. Costa.
Europe 1. Le journal permanent.
20h30, Maël Hassani.
Le meurtrier de Mélanie, mis en examen et placé en détention provisoire ce soir. Cet adolescent de 14 ans maintient devant le juge ses propos tenus durant sa garde à vue. Il avait expliqué être sorti de chez lui mardi matin avec l'objectif de tuer une surveillante de son collège, mais sans viser précisément la victime. Devant les enquêteurs, il n'a exprimé ni regret ni compassion. Des cérémonies organisées en Inde ce soir en hommage aux victimes du crash d'un Boeing 787 de la compagnie Air India. L'avion qui devait rejoindre Londres s'est écrasé peu après le décollage sur une zone résidentielle de la ville d'Ahmedabad. Le dernier bilan fait état de 290 morts. Un passager a miraculeusement survécu. Le Sénat rejette la taxe Zucman. La Chambre haute, dominée par la droite et le centre, écarte ce dispositif porté par la gauche, visant à instaurer un impôt minimum de 2% sur le patrimoine des plus riches. Cette proposition de loi avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée. Le député insoumis Raphaël Arnaud promet de saisir le Conseil d'État pour empêcher la dissolution de la Jeune Garde, un groupe d'extrême gauche antifasciste dont l'élu est porte-parole. Dissolution proposée à la mi-journée en Conseil des ministres. Une mesure similaire prise à l'encontre du mouvement d'ultra-droite Lyon Populaire. Nous sommes assez proches d'un bon accord sur le nucléaire iranien. Déclaration de Donald Trump ce soir. Le président américain estime dans le même temps qu'Israël pourrait attaquer l'Iran. Mais il exhorte l'État hébreu à renoncer à ce projet pour, je cite, « ne pas tout faire capoter ».
Merci Maël Hassani.
Europe 1 soir.
19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Petite parenthèse, la taxe Zucman, ça concerne les patrimoines de plus de 100 millions d'euros.
Oui, voilà, respirez bien.
Vous avez eu chaud.
Non mais, je vois qu'il y a des doigts pointés, des petits clins d'œil à mon égard. Voilà, je pense que tout ça... Tout ça est totalement désastreux. Bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Jean-Michel Salvatore est là, Raphaël Steinville aussi, Joachim Le Floquimad a bien voulu rester 10 minutes de plus jusqu'à la prochaine pause publicitaire pour parler de ce drame terrible qui malheureusement pose beaucoup de questions et a fait dégainer les politiques sur plein de trucs assez insensés comme le Premier ministre qui voulait interdire la vente des couteaux au moins de 15 ans alors qu'en réalité ce gamin a trouvé un couteau dans la cuisine de ses parents, il a pris le plus grand, bon voilà, et on voit le résultat, et comme l'interdiction ou plutôt la mise en place de portiques dans les enceintes, alors qu'en réalité, s'il n'y a pas de mur d'enceinte, il peut y avoir un portique. De toute façon, ça a été vu, ça ne peut pas forcément très très bien marcher. Et puis ce matin, sur Europe 1, Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, a parlé de l'éventualité de référents psy dans les écoles. Qu'est-ce qu'en pense la psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont ? Elle s'est exprimée ce matin sur CNews.
Il y aura une génération de jeunes ou déprimés ou très violents. On a horizontalisé complètement la relation entre les adultes et les enfants au nom du jouir sans entrave. Donc les enfants et les ados seraient des adultes comme les autres. Non, ce n'est pas le cas et ils n'ont pas de discernement et ils ne peuvent pas anticiper les conséquences de leurs actes. On a fait sauter les interdits structurants, on a tué toutes les figures d'autorité, on s'est mis à mépriser la connaissance, l'idéologie est rentrée à l'école. Si bien qu'on a des jeunes aujourd'hui, on le voit en thérapie, nous on est en difficulté parce qu'ils n'ont pas de vocabulaire. Donc quand ils vont mal, ils disent « je vais mal mais je me sens vide ». Et quand on leur dit « il y a quoi dans ce vide ?», il n'y a pas de mots pour qualifier le vide. Et c'est ça qui est très préoccupant, c'est que je crois qu'on est passé d'une société du langage et du récit à une société de l'algorithme, et l'algorithme, il conduit à de la violence.
C'est très juste ce qu'elle dit, Marie-Estelle Dupont. Hein.
Et, non,
c'est-à-dire que le gamin, il dit « je me sens vide » et il n'arrive pas à expliquer. Et c'est on en est au début de ce dossier de Quentin, 14 ans, mais d'après ce qu'a dit le procureur de Chaumont hier, c'était... À part quelques informations comme quoi il n'avait pas de regrets, etc., ça fait partie aussi de ces phénomènes de vide.
Bien sûr, il y a de nombreuses études en sciences cognitives, si vous voulez, qui montrent une corrélation entre le vocabulaire, le goût de la lecture, le respect du savoir et l'empathie. Et en effet, Madame Dupont a tout à fait raison sur ce qu'elle explique sur la crise de la santé mentale, le nihilisme qui gagne une partie de la jeunesse française depuis le Covid, mais en réalité, je pense que c'est beaucoup plus structurel et profond que ça. Quant à la proposition défendue par la ministre des référents psy, je pense qu'on est encore une fois à côté de la réalité. On est dans une culture de la communication, une vacuité de la parole politique, avec, si vous voulez, des mesures un peu cosmétiques, gadgets qui sont sortis dès qu'un drame survit. Là, c'est les référents psy, avec sous Gabriel Attal, c'était les cours d'empathie. Pour certains, ça va être l'interdiction des couteaux ou les portiques scolaires. Encore une fois, on tente de répondre aux conséquences et on s'attaque jamais aux causes.
Au socle. C'est exactement ça. C'est fait que construire sur du sable. C'était aussi fragile. Marie-Estelle Dupont expliquait qu'on a fait sauter les interdits structurants.
Oui.
Mais précisément, c'est l'un des problèmes les plus majeurs de nos sociétés depuis 68. Lorsque il y a un confusionnisme entre le bien et le mal, qu'encore aujourd'hui, dans les débats actuels, on nous explique que finalement, le droit à tuer, et c'était tout le débat qui a été euphémisé autour de la loi sur l'euthanasie, finalement, c'est un progrès. Comment voulez-vous que la jeunesse ne soit pas seulement angoissée par ce qu'on lui propose, mais totalement troublée par les concepts qui varient du jour au lendemain?
Vous parlez de mai 68, c'est très intéressant. Je suis en effet d'accord avec cette idée qu'il faut en finir avec le interdit d'interdire. Maintenant, mai 68, c'est davantage un symptôme qu'une cause de fond, puisque le mouvement de l'éducation nouvelle, auquel je fais référence dans mon article, qui a voulu transformer l'école en contre-société libertaire, il puise ses racines bien avant, c'est dès les années 1920, Tout un tas d'auteurs, Freinet, Montessori, Dewey, etc., influencés par une mauvaise lecture de Rousseau, ont voulu déconstruire l'autorité du maître, mettre l'élève au centre du système. Tout ça,
est-ce
c'est bien avant
Marie
la loi de Jospin en 1989.
C'est-à-dire que l'adolescent est égal et pense comme un adulte, ce qui est aucunement vrai.
Bien sûr, mais il faut revenir à davantage de verticalité. Un certain nombre de, puisque vous parlez tout à l'heure des modèles étrangers, il y a un certain nombre de sociétés qui sont pas du tout construites sur cet idéal hyper permissif avec l'individu roi, l'élève au centre. Je pense aux sociétés asiatiques qui ont de bien meilleurs résultats que nous dans toutes les études internationales. Je pense aussi à des sociétés sud-américaines.
Jean-Michel.
Moi, ce que je trouve assez inquiétant dans cette histoire, c'est qu'on a senti que chez les politiques, un sentiment d'impuissance et de vide absolument sidéral. Quoi.
Ouais. En fait, ils ont tous voulu dégainer en même temps.
Ils ont voulu,
si t'as rien à dire, tu...
Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont quand même senti que là, il s'était passé quelque chose de fondamentalement grave.
Ouais. Ouais.
Et je pense que Bayrou l'a bien vu. Et Bayrou, finalement, il a fait ce qu'il avait toujours dit qu'il ne ferait jamais, c'est-à-dire qu'il est allé à la télévision pour présenter une mesure, parce qu'il s'est dit là... On m'attend, il faut que je fasse quelque chose.
Je tiens quelque chose.
Voilà. Et il a fait un peu du Sarkozy, alors qu'il avait toujours critiqué Sarkozy, qui, à chaque fois qu'il y avait un problème, proposait une loi. Et donc, il a dégainé son histoire de couteau, qui tombe complètement à plat, puisqu'on a appris que finalement, ce couteau qui avait servi à tuer Mélanie, c'était un couteau qui était un couteau de cuisine, qui se trouvait dans un tiroir de la famille. Donc, tout le monde est pris complètement à contre-pied. Et au fond, moi, ce que je trouve le plus inquiétant dans cette histoire, c'est que personne n'a réfléchi au sujet, et personne n'est capable de dire des choses un peu sensées et d'essayer, un, de comprendre, et deux, d'engager une réflexion qui aboutira sur quelque chose.
On va écouter, si vous le voulez bien, un autre expert, le professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers. Alain Bauer était ce matin dans la matinale de Dimitri Pavlenko sur Europe 1.
Il y a une augmentation générale, mais à l'intérieur de cette augmentation générale, il y a un rajeunissement avec un effet à la fois de désinhibition, de pulsion totalement pas maîtrisée, d'absence de discernement et de rejet de la responsabilité. Le procureur disait hier qu'un des éléments qu'il avait un peu étonné, c'est l'absence de compassion. À la fois la volonté de tuer n'importe qui mais quelqu'un et l'absence de compassion sur l'après, c'est-à-dire la capacité à intégrer une forme de responsabilité et de regret alors que ça n'est même pas arrivé. Et ça, c'est un phénomène qui se généralise. On a beaucoup de jeunes auteurs qui ne se rendent pas compte de la gravité de ce qui a été fait et n'assument pas ni la responsabilité, ni le fait que c'était grave et qu'il ne fallait pas le faire.
Alain Bauer, ce matin sur Europe 1, chez Dimitri Pavlenko. Alors, on ne va pas être d'accord, Joachim Le Floquimad, parce que tout à l'heure, vous avez dit non, ce n'est pas les portiques, non, ce n'est pas les jeux vidéo. Non, c'est... Et puis, alors, vous avez éludé pas mal de choses. Cependant, encore une fois, avec des grandes parenthèses et comme je dis, le coton nécessaire pour l'emballage. Ce gamin jouait à Fortnite. Et il était, d'après ce que disait le procureur de Chaumont, passionné par les personnages les plus sombres des jeux vidéo et des séries télévisées. Est-ce que vous ne pensez pas que dans l'inconscient d'un gamin de 14 ans, ce qui est réel et ce qui est virtuel dans un jeu vidéo ne se mélange pas à un moment donné et on se retrouve finalement à vivre une vie qui n'est pas la vie réelle ? Question ouverte.
Non mais moi, si vous voulez, je suis évidemment contre la surexposition aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, aux images violentes, pornographiques, qui, je pense, détruisent les jeunes gens de l'intérieur, déstructurent leur esprit, pulvérisent leur capacité d'empathie. Ça, on sera d'accord là-dessus. Maintenant, si vous prenez les autres sociétés européennes, je pense pas qu'il y ait moins de jeux vidéo dans les pays baltes où on n'est pas confronté à ce genre d'événement. Ça marche en gris. Il y a des tas de jeunes qui jouent régulièrement aux jeux vidéo qui n'en arrivent pas à ce genre de drame. Je pense encore une fois que le problème est beaucoup plus profond.
Il suffit d'un cas.
Mais on ne fait pas une politique publique à partir d'un cas. Si vous voulez, la jubilation à détruire, elle dépasse largement le problème des jeux vidéo.
Les Américains font moins que ça. Vous savez, vous connaissez le fameux cas d'école. Alors, aux États-Unis, on fait les arrêts. C'est Salvatore versus Steinville, etc. Oui. Bon, il y a eu un cas dans les années 70 sur les micro-ondes.
Oui.
Et tout le monde s'était demandé dans les années 70, aux États-Unis, pourquoi est-ce que dans les micro-ondes, dans les notices de tous les micro-ondes, il y a dit ne pas mettre un chat dans les micro-ondes. Parce qu'un jour, il y a un type qui a mis un chat dans un micro-ondes et il a obtenu gain de cause de la part du fabricant du micro-ondes. Il suffit toujours d'un cas, c'est ça le problème.
Moi, je trouve que dans le cas de Quentin,
il y a
un détail qui a été donné par le procureur que moi, je trouve assez glaçant, qui est quand il a expliqué qu'en fait, Quentin embrassait sa petite amie
dans l'enceinte
de l'école, qu'il a été surpris par une surveillante, qu'il n'a pas admis une réprimande, et que pendant tout le week-end, il s'est dit...
Il a ressassé,
il s'est dit, je vais tuer...
Une enseignante.
Bon. Et là, on voit bien cette incapacité totale à gérer ses frustrations et à dominer ses frustrations. Et je trouve que c'est quand même une clé que je trouve finalement assez inquiétante.
Mais est-ce que vous pensez, Jean-Michel, que ça a un lien avec ce que j'ai dit sur les jeux vidéo ou pas du tout ? Est-ce que c'est... Parce que dans Fortnite, c'est simple, c'est un bonhomme qui, avec une mitraillette, tue tout le monde, quoi. C'est ça, hein, Fortnite.
Oui. Alors, il peut y avoir, moi, je sais pas, je suis pas dans la tête de ce Quentin, mais je trouve quand même que.
Mes enfants me disent, alors moi, ils jouent pas à ça, mais de temps en temps, avec les cousins, ils jouent à ça. Mes enfants me disent, mais c'est pour de faux, papa. Ben, à un moment donné, moi, j'ai peur que ça devienne pour de vrai. Mais peut-être que je suis extrémiste, j'en sais rien.
Je sais pas, quand j'étais adolescent, je faisais des refus d'obtempérer sur GTA, et pour autant, j'en faisais pas dans la vraie vie ensuite. Je disais des littératures à côté. Non, si vous voulez, je pense quand même, si on prend les choses au niveau macro, si on prend le total des agressions, des homicides, des mineurs mis en cause, etc., il y a quand même des causes qui sont de fond, qui sont beaucoup plus pertinentes que les jeux vidéo. C'est le repli sur les cultures d'origine, c'est le nihilisme, c'est le sentiment de toute puissance qu'engendre
l'impunité. Le nihilisme, vous l'avez dit au moins trois ou quatre fois.
Je pensais que ça n'existait plus,
le nihilisme.
Relire Dostoïevski. La crise des valeurs, l'incapacité à distinguer le bien
qui joue
le bien
Fortnite,
et le mal.
Il faut lire déjà quelques
classiques français avant, ce serait bien aussi. Mais si vous voulez, c'est la crise de repères, c'est le mépris pour la vie humaine, c'est l'absence de grandeur. Quelle exaltation on propose à la jeunesse de France aujourd'hui ? Aucune.
Quentin, il disait que le procureur restituait ses propos, qu'il n'avait pas d'empathie, qu'il n'avait pas de d'attachement à la valeur humaine.
C'est pareil pour les émeutiers après le match du PSG ou à l'été 2023.
Oui, sauf que là, c'est un gamin de 14 ans.
Raphaël Steinville.
C'est un gamin de 14 ans et je pense que, moi, je sais que lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'étais à la fois saisi d'effroi pour cette surveillante, pour la famille de cette surveillante qui est désormais dans la douleur, une douleur infinie, mais également en tant que père, en me disant que finalement, ça pourrait être un de mes gamins. Parce que ce fameux Quentin, il est assez semblable au gamin que l'on croise dans la rue. Alors certes, il a commis aujourd'hui un meurtre, ce qui le rend et ce qui le distingue absolument de tous les autres, mais il est devant son téléphone portable, il joue aux jeux vidéo, il regarde des séries. Finalement,
dans
ça
une famille intégrée.
Dans une famille intégrée, sans qu'aucun de ses parents n'ait connu la justice. Non, mais je pense que c'est autre chose, c'est que on n'a pas réalisé à quel point finalement notre société est malade, pas d'un point de vue psychologique, mais parce que on a laissé faire. Regardez même sur les écrans, on est dans une société où les injonctions contradictoires sont permanentes. Mmh. À la fois, on a très conscience aujourd'hui des ravages que peuvent faire les écrans, et pourtant, quasiment toute la communication, presque exclusivement la communication de l'école, passe désormais par les écrans. Les parents sont surchargés de notifications d'école directe. Les enfants également vont sur téléphone. Oui. On ne peut plus faire sans ces
c'est
écrans.
C'est vrai. C'est totalement vrai et c'est incompréhensible. Merci en tout cas Joachim Le Floch-Imad d'avoir
merci
été
pour
avec
votre invitation.
Nous. Directeur de la Fondation Respublica. Vous restez avec nous dans un instant, le rappel des titres de l'actualité et dans un instant on parlera politique avec Jean-Michel Salvatore et Raphaël Steinville. À tout de suite sur Europe 1.
19h-21h,
Europe 1 soir.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 e-tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Europe 1, le journal permanent.
9h moins le quart, Maël Hassani.
Des enquêteurs américains se rendent en Inde pour participer à l'enquête sur le crash d'un Boeing 787 d'Air India ce matin sur un quartier résidentiel de la ville d'Ahmedabad. Cet avion qui devait rejoindre Londres s'est écrasé peu après le décollage. Au moins 290 morts selon le dernier bilan, mais l'un des passagers a survécu. Le titre de Boeing en bourse s'effondre, moins 5% à l'ouverture à Wall Street. Le meurtrier de Mélanie va passer sa première nuit en prison. Cet adolescent de 14 ans est mis en examen et placé en détention provisoire. Deux jours après avoir tué une surveillante devant son collège à Nogent en Haute-Marne, devant le juge, le mis en cause maintient ses propos tenus durant sa garde à vue au cours de laquelle il n'est exprimé ni regret ni compassion. C'est la plus longue décision rendue par le Conseil constitutionnel. Les sages valident en grande partie la loi narcotrafic. 6 articles censurés totalement ou partiellement comme le recours aux renseignements algorithmiques ou encore la création de dossiers coffres dans le cadre des enquêtes. Feu vert en revanche à l'ouverture dès cet été de prisons de haute sécurité. Rima Hassan attendue à Paris dans la soirée. L'eurodéputée insoumise expulsée du territoire israélien ce soir après la raison du bateau sur lequel elle se trouvait en début de semaine, le Madeleine, censé rejoindre la bande de Gaza. Au revoir et n'oubliez pas de prendre un selfie avant de partir, écrit ironiquement le ministère israélien des Affaires étrangères en annonçant cette expulsion.
Merci Maël Hassani.
Europe 1 soir.
19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Et en effet, c'est ce tweet du ministère des Affaires étrangères israélien. Six more passengers from the selfie yacht, including Rima Hassan, are on their way out of Israel. Bye bye and don't forget to take a selfie before you leave. Voilà donc le en langue anglaise ce que vient de dire Maël Hassani. J'ai pas besoin de traduire, il vient de vous le dire en français avec les photos de ces comment dirais-je militants en avion dans la salle d'attente également. Alors j'ai appris, je crois, alors vous l'avez peut-être vu vous Raphaël, mais il paraît qu'il y a une photo de Rima Hassan en train de manger un sandwich alors qu'elle était prétendument en train de prendre de faire une grève de la faim.
J'ai l'impression même que c'était un burger.
Ah, c'était un burger. Bon, je voudrais quand même qu'on s'attarde là-dessus, d'autant qu'il y a deux événements concomitants. Le premier, c'est que Raphaël Arnaud, dont la jeune garde a été dissoute officiellement par M. Retailleau en Conseil des ministres aujourd'hui. M. Raphaël Arnaud, avec deux autres membres de LFI, organise une conférence sur l'islamophobie demain à Perpignan à 18h. Ça, c'est une première information. L'autre information, c'est ce tweet hier de M. Mélenchon qui passe un cap, puisqu'il dit, il se dit que Rima Hassan et ses coéquipiers seraient expulsés, etc. Et voilà, c'est surtout le terme que je vais lire qui m'interpelle. Nous savons que les brutes israéliennes qui les ont enlevées en mer dans les eaux internationales racontaient déjà que les prisonniers refusaient d'être expulsés. Ils mentent tout le temps. Voilà ce que dit M. Mélenchon. Les brutes israéliennes mentent tout le temps. Voilà ce que dit M. Mélenchon, qui est un leader politique public en France du gouvernement israélien. Raphaël Saint-Ville.
Je vais vous dire, moi ça ne m'étonne même plus, mais... Je dois dire que je suis curieux d'entendre Rima Hassan ce soir à son arrivée en France, de l'entendre nous parler de sa captivité, je mets des guillemets, de sa prise en otage par Tsahal, parce que ce sont les termes qu'elle va probablement utiliser, des traitements inhumains qu'elle aurait subis pendant sa captivité, de son sommeil heurté, de sa privation de sommeil. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il faut mettre ça en regard. Au regard des vrais témoignages de ceux qui ont été pris en otage par le Hamas pendant des journées, pour ceux qui sont encore retenus en otage. Mais le fait est qu'il y a un certain nombre de voix qui se sont déjà fait entendre. Je pense à Hamid Soussana, qui a passé 55 jours en captivité, qui a été enchaîné pendant 3 semaines avec des armes pointées sur elle, qui a été violée dans une chambre d'enfant sous la menace d'un pistolet. Semi Hachem, qui a été détenue pendant 54 jours, violée elle aussi. Les témoignages, on en a des dizaines. Et on aura ce soir une sorte de show avec des mots qui sont aujourd'hui frelatés, ou plus rien à voir avec la réalité. Très honnêtement, oui, je suis curieux de voir à quel point ils vont pousser jusqu'à l'horreur et le détournement des mots, jusqu'à nous faire oublier que certains sont encore otages, véritablement
mais
otages du Hamas.
Comment, alors vous parlez effectivement de l'arrivée de Rima Hassan et de ce rassemblement à Paris à 21h,
exactement.
C'est ce qui a été annoncé par LFI, Place de la République à Paris. Moi, ma question, Raphaël Steinville, et peut-être d'ailleurs d'abord à Jean-Michel Salvatore, qui est aujourd'hui un communicant, comment est-ce que cette opération de com' fonctionne? Comment est-ce que les gens, après tout ce qui s'est passé, avec les témoignages que vient de lire Raphaël sur les otages israéliens, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que les gens adhèrent encore à un message pareil?
Alors d'abord, ceux qui adhèrent sont ceux qui sont déjà convaincus. Alors je ne pense pas que ça
change. Vous voulez dire, il n'y a pas de nouveaux adhérents?
Non, je ne crois pas. Non, mais là, on voit bien l'opération et qui est, excusez-moi, mais qui est... Enfin, on a du mal à dire que c'est une opération de com' parce que c'est tellement grave qu'on ne peut pas réduire
mais
ça.
Mais c'est pourtant ça.
Au fond, vous avez donc...
C'est le ministre des Affaires étrangères israélien qui appelle ça le selfie yacht.
Et donc, vous avez le selfie yacht donc, qui a eu lieu. Donc, on a vu les images. Elles ont été partagées abondamment. On a bien vu tout ça. Bon. On a vu quand même que ça ne fonctionnait pas tout à fait comme il l'imaginait, parce que malgré tout, il y a eu des distributions de nourriture et ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Bon. Et puis ensuite, il y a maintenant l'exploitation en France, hein, puisque c'est quand même une opération qui a été mûrement préparée et réfléchie par la France Insoumise, avec le soutien ou avec la contribution active de Jean-Luc Mélenchon. Et donc maintenant, on arrive au moment où on va essayer d'exploiter au maximum cette opération par ces manifestations qui sont prévues à droite et à gauche. On a vu aussi Jean-Luc Mélenchon demander audience au président de la République d'une façon très théâtrale sur le thème « Bon, c'est trop grave pour que je dois aller à l'Élysée pour défendre mon point de vue. » Donc voilà, donc c'est une opération qui se déroule et je dirais que malheureusement pour eux, même si c'est bon, malheureusement pour eux, la visibilité de l'opération, bon, elle s'est beaucoup vue sur les réseaux sociaux et chez ceux qui étaient totalement convaincus, mais c'est vrai qu'elle a été quand même assez masquée par l'actualité française. Et de ce point de vue-là, l'opération n'est pas à 100% réussie. Mais c'est vrai qu'on manque de mots pour dénoncer l'ignominie de ce qui a été fait. Et comme le disait très bien Raphaël, on oublie quand même tellement vite tous ces otages israéliens qui sont toujours là-bas.
Raphaël Saint-Ville, comment est-ce que ça marche chez les filles? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des juristes, des avocats qui font en sorte que il n'y ait rien de condamnable, parce que c'est une question qu'on pose de manière récurrente, à la fois dans le JDD, à CNews, sur Europe 1, sur les médias, qui ont le courage de se poser la question de savoir pourquoi, diable, n'y a-t-il jamais de condamnation de mots, de phrases utilisées par la France insoumise. Pardonnez-moi, mais quand M. Mélenchon parle de brutes israéliennes, je ne sais pas, par exemple, si Joshua Zarqa, qui cette semaine était ici même dans Europe 1 Soir, l'ambassadeur d'Israël en France, est-ce qu'il demande pas qu'on reprenne M. Mélenchon sur des mots pareils.
Non mais, moi je comprends que l'on puisse être heurté par le discours, les mots employés, les expressions de Jean-Luc Mélenchon et des autres, mais est-ce que ces mots, qui sont très politiques, très choisis, pourraient donner lieu à une condamnation judiciaire? Bien évidemment que non. Rima Hassan, c'est d'abord une pro du droit international. Elle sait très précisément
quel mot utiliser.
Ouais. Et c'est vrai de tous.
Oui.
Moi, je vous dire, ce qu'il y a de plus choquant dans cette histoire, c'est que je pense que Israël a perdu la bataille de la communication. Dans quel sens? Bah regardez, le simple fait qu'il y ait un comité d'accueil pour accueillir comme si elle était une héroïne Rima Hassan ce soir est le signe que finalement Israël a perdu la guerre. Israël aujourd'hui, c'est l'éternel oppresseur, c'est un peuple génocidaire, c'est ainsi que à travers le monde, pas seulement chez certains
c'est-à-dire
militants.
Qu'ils n'auraient pas dû envoyer ce tweet avec les photos en disant bye bye, le selfie out, etc.
Israël a perdu la guerre de la communication. Aujourd'hui, ils ne parlent qu'à ceux qui réalisent encore à quel point il y a une injustice à vouloir reprendre
donc
les
mots. Ça veut dire qu'ils ont retourné le problème à leur avantage et ça marche.
Mais dès le 7 octobre, dès le lendemain du 7 octobre, c'était déjà le cas. Lorsque Rima Hassan parlait du Hamas comme un mouvement de résistance, elle avait déjà, elle s'inscrivait déjà dans un narratif qui contribuait finalement à faire d'Israël l'oppresseur.
Merci Raphaël Steinville, merci Jean-Michel Salvatore. Le temps nous manque, hélas, mais merci d'avoir participé à ce débat, les enfants d'Europe 1. Tout de suite.
Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Vous êtes bien.
Les enfants d'Europe 1.
Bonsoir Laure d'Autriche.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Le 12 juin 1964, Nelson Mandela a été condamné à la prison à vie en Afrique du Sud, pays alors en apartheid. Il est libéré 26 ans plus tard en 1990. Il a alors 71 ans lorsqu'il quitte la prison de l'île de Robben Island en Afrique du Sud.
Oui, ce sont ses premiers pas d'homme libre. La démarche incertaine, il marche main dans la main avec sa femme Winnie Mandela. Il a retrouvé son peuple.
Monsieur Mandela s'est donc installé maintenant dans sa voiture aux côtés de Winnie, à l'arrière, avec un chauffeur et donc sans doute un garde du corps aux côtés. Il salue la foule. La voiture essaye de démarrer, mais il y a tellement de monde.
Nelson Mandela avait été incarcéré pour ses prises de position contre les lois d'apartheid en Afrique du Sud. À peine sorti, il va saluer les siens dans le ghetto noir de Soweto, à Johannesburg, où se trouve pour Europe 1 François Clémenceau.
Il y a autour de moi des dizaines de gens qui sont fous de joie, littéralement fous de joie. Et je peux vous assurer que ça crie de partout, ça chante.
Et Nelson Mandela donne sa première conférence de presse d'homme libre. C'est grâce à votre combat, à votre lutte incessante et à votre discipline que je suis enfin de retour parmi vous. Le 10 mai 1990, Jean-Pierre Elkabbach, qui a pris l'avion pour Johannesburg, rencontre Nelson Mandela.
Mandela dégage d'emblée une force, une autorité qui impressionne, avec un mélange de chaleur et de distance. Les 27 années passées en prison ne l'ont rendu ni amer, ni hostile à l'égard des Blancs. Oh, m'a-t-il dit, ils se sont trompés.
Et Nelson Mandela revient sur Europe 1 sur ses conditions de détention.
Est-ce que vous lisiez, est-ce que vous écoutiez de la musique?
Oui. Nous avons écouté de la musique.
Quel compositeur?
Je ne pense pas.
Si je puis le dire, parce que le goût personnel est très confidentiel. À qui vous en voulez aujourd'hui?
Je n'ai pas le temps de reprocher quoi que ce soit, qui que ce soit. J'aimerais bien avoir le temps, mais il y a beaucoup de travail à faire. Je suis contre la domination des Noirs, tout comme je suis contre la domination des Blancs. Nous ne pensons pas en termes de couleur.
Nelson Mandela deviendra le premier président noir d'Afrique du Sud 4 ans plus tard, en 1994.
Merci, Laure d'Autriche. La météo, Marlène Duret, forte chaleur et orage au programme.
Effectivement, les thermomètres vont remonter demain même en Bretagne. 24 à Saint-Malo, 27 à Rennes. Il fera en général 27 à 35 degrés. Alors les 32 à 35 degrés, on les attend du Grand Est au Limousin et à l'Auvergne-Rhône-Alpes, en passant par la Bourgogne-Franche-Comté et le Centre-Val de Loire, avec des pointes à 36 en Isère, par exemple. Et puis elles vont baisser ce week-end après le passage de plusieurs salves orageuses. Demain, on en attend deux. Des orages potentiellement violents attendus en seconde partie d'après-midi et en soirée dans le Nord-Ouest. Ça va remonter progressivement vers la région parisienne et les Hauts-de-France. Attention, des orages qui pourraient d'ailleurs nécessiter une vigilance orange demain matin. Donc, soyez informés. Et puis, une nouvelle salve orageuse fera son entrée par les Pyrénées en fin de journée aussi. Donc, d'autres orages à prévoir également ce week-end, samedi et dimanche.
Merci Marlène Duret. Demain, même endroit, même heure. Vous retrouvez Pascal de la Tour du Pin, bien sûr, pour Europe 1 Soir. Moi, je vous retrouve dimanche pour le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos à 10h avec le président des centristes, Hervé Morin. Puis n'oubliez pas que M. Hassani est là pour vous informer jusqu'à minuit, bien sûr. La France Bouge arrive. Bonsoir Elisabeth Assayag.
Bonsoir Pierre. Ce soir, Vivatech, deuxième France Bouge. Nous sommes toujours sur le très très beau stand du Crédit Agricole. Et ce soir, nous allons parler santé. Nous allons parler MedTech avec des startups exceptionnelles. Et le patron du Crédit Agricole Santé et Territoire, c'est un peu une startup dans le grand groupe puisque ça a à peine 2 ans. Ce sera juste après le point sur l'info. À tout à l'heure.
À tout de suite.
Parfois grand c'est vaste, parce que parfois grand c'est énorme, et parfois énorme c'est immense. Mais parfois grand c'est juste grand, et parfois c'est juste ce qu'il vous faut. Nouveau Dacia Bigster, grand coffre, grande autonomie moteur hybride et petit prix. Dacia Bigster à partir de 24 990 euros est maintenant disponible en motorisation GPL, à découvrir durant les portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Prix conseillé pour l'achat d'un Dacia Bigster essentiel mild hybride 140, 9 hors option selon tarif du 3 juin 2025. Conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
Toutes vos émissions préférées en replay
sont disponibles sur l'application Europe 1.
Voyage en Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km de paysage, un seul plein et zéro recharge. Le moteur s'adapte entre thermique ou électrique pour 1100 souvenirs. Nouveau Renault Austral Full Hybrid E-Tech dès 400 euros par mois. 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 12.